Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je vais échanger avec Fred du conte Vieux Machin Bidule sur le rôle de papa laitant, comme on dit en France. Sur ce rôle d'accompagnant de l'allaitement, sur ce rôle de soutien, sur ce rôle de partage, sur ce rôle de père en fait, qui peut pleinement s'exprimer, et comment est-ce qu'on peut y arriver. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour Fred.
Salut.
Bonjour Fred, donc du conte Vieux Machin Bidule, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
Exactement, c'est bien ça.
Je te remercie beaucoup de m'avoir donné du temps pour cette interview.
Avec un grand plaisir.
Et donc, notre sujet, ça va être le sujet de l'allaitement, et plus précisément, en ce qui te concerne, le rôle qu'on appelle, entre guillemets, de papa laitant.
C'est ça, c'est un nouveau terme, un petit peu à la mode, mais oui, c'est ça, exactement, le rôle du papa laitant, de l'accompagnant dans l'allaitement.
Et bien justement, ce rôle de papa laitant, de père qui est engagé dans l'accompagnement de l'allaitement, comment toi, tu le définis?
Bah écoute, je le définis... Moi, je trouve que, alors souvent, je parle de notre allaitement. C'est notre allaitement. Je suis complètement incorporé à cet allaitement, même si c'est pas moi qui ai le rôle principal. J'ai plutôt le second rôle, mais j'aime m'impliquer. Et je trouve que le rôle de papa laitant est un rôle extrêmement important puisque c'est celui qui va faire que l'allaitement peut potentiellement durer le plus longtemps possible. Parce qu'un allaitement qui n'est pas soutenu, alors par un papa ou par une deuxième maman ou par des gens qui n'ont pas de parents, enfin pas de deuxième conjoint, donc des parents, l'important c'est d'être soutenu dans cette situation-là. Moi je suis un papa laitant parce qu'on a une papa et une maman, s'il y a deux mamans, ben, c'est une deuxième maman. Le rôle de l'accompagnant est essentiel pour un allaitement qui fonctionne, qui dure, Et le plus possible si on a envie, et réellement le soutien est la première règle. La plupart des allaitements se cassent la figure dès que le soutien n'est plus là.
Et pour le coup, le soutien, ça consiste en quoi?
Alors le soutien, déjà, c'est d'être en accord, l'un et l'autre, sur ce qu'on veut faire. Alors ça se décide pas une fois que l'enfant est là, hein, en règle générale, ça se réfléchit. En général, quand l'enfant est là, mais là, dans le ventre de la maman, c'est là où il faut commencer à discuter des projets, ce que l'on veut pour notre enfant. Alors des fois, voilà, on parle de qu'est-ce qu'on veut comme poussette, qu'est-ce qu'on veut comme machin, qu'est-ce qu'on veut comme truc, mais l'allaitement en fait partie. Et personnellement, l'allaitement a été en tête de liste. C'est la première chose sur laquelle on s'est posé la question en se disant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Et c'est bien pas qu'est-ce que tu fais, Julie, parce que ma femme s'appelle Julie, c'est pas Julie, qu'est-ce que tu fais toi, c'est qu'est-ce qu'on va faire à deux. Parce que si on veut que ça fonctionne, c'est que les deux doivent vraiment y mettre du leur, si tu veux. Et donc, en se posant cette question-là déjà en amont, avant l'arrivée de votre enfant, déjà vous avez fait une première étape. Alors, qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut faire un allaitement long? Est-ce qu'on veut faire un allaitement en cours? Est-ce qu'on veut essayer déjà? Est-ce que l'on veut essayer? Est-ce qu'on veut faire cette première tétée d'accueil? Et puis finalement, alors c'est pareil, hein, ça c'est ce qu'on fait sur le papier, hein, une fois qu'on est en live et en direct, c'est un peu plus différent, parce que voilà, il y a les aléas, je l'apprends pas, hein, l'allaitement, il y a des difficultés, il y a des maternités qui prennent le temps de débuter un allaitement avec les mamans, d'autres moins, ça c'est la réalité. Maintenant, il faut aussi, nous-mêmes, eh ben, se prendre un petit peu par la main, et de se dire, on va demander à une sage-femme qu'elle nous aide, parce qu'on a envie de réussir cet allaitement. Et puis après, je pense que c'est une question de temps. Voilà, on peut se fixer un objectif, se dire voilà, j'essaye une semaine, j'essaye deux, trois, quatre. Et puis, au fur et à mesure, vous le savez déjà à l'avance parce que vous vous êtes renseigné, vous savez que l'allaitement, c'est ce qui va y avoir de meilleur. Voilà, clairement, je jette pas le pavé dans la mare, mais presque. un allaitement, c'est ce qu'il y a de meilleur. La composition du lait est tellement impressionnante que si c'était sur une boîte, il faudrait une boîte qui fait 20 mètres de long. Parce que ben, la composition est très importante. Et en plus, c'est une composition de lait évolutive qui s'adapte continuellement. C'est pour ça que souvent, on voit le lait qui change de couleur. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Tété en Tété. Qui le montre très bien en photo, où on voit la composition du lait qui change, la couleur du lait qui change selon les événements. Hein, bébé malade, bébé qui va bien, maman qui est malade, voilà, le lait s'adapte. Et ça n'importe quel laboratoire qui fait des préparations commerciales pour nourrissons ne peut pas faire ça, c'est impossible.
Oui, on est d'accord, c'est ce qu'il y a de chouette avec le lait, c'est que tu as le lait qui est adapté parfaitement pour ton enfant, quoi.
Totalement, c'est ça. Il n'y a pas de mauvais lait ou de lait qui n'est pas bon, parce que ça fait partie des mythes et légendes, hein. Mais légendes, pardon. Mais il s'adapte. Et donc rien que ça déjà, c'est super. Et je trouve que de se dire déjà en amont, avant d'avoir son bébé, nous allons déjà par l'alimentation lui donner le meilleur. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, l'accompagnement, tout ça. Mais déjà rien que par l'alimentation, ce premier lien entre nous et surtout avec la maman. C'est quand même extraordinaire.
Et au tout début de l'allaitement, moi je vais te parler un peu de moi, parce que c'est vrai que moi, si tu veux, j'ai fait le choix et j'ai eu l'opportunité. Alors pareil, ça a été un projet qui s'est préparé, donc j'ai pu me donner l'opportunité d'avoir un petit congé parental, quand même de 2 mois, donc c'était chouette.
5 mois.
Ah ben tu vois.
J'ai de la chance.
C'est top, non mais c'est top. Et pour le coup, ce choix-là, pour moi, ça a été un vrai facilitateur, si tu veux, dans l'accompagnement de ma compagne sur l'allaitement. Et aussi, par contre, je t'avoue que les premiers temps, je me suis retrouvé un peu à me dire, mais vraiment en tout début, tu sais, le bébé, il est tout petit, hein, il dort, il fait ses besoins, il est au sein, il fait des siestes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Est-ce que toi aussi, tu as eu cette perte de repère à un moment?
Oui, parce que, bah, comme tu dis, alors d'abord c'est nouveau, hein. Enfin, voilà, moi c'est mon premier enfant, tout est nouveau. En plus, moi je suis de l'école où j'aime bien me rendre compte des choses par moi-même. Donc en règle générale, les conseils, je les écoute d'une oreille, mais ça reste tant que je l'ai pas vérifié par moi-même, bon, j'y crois pas trop. Et effectivement, dès le départ, bah, t'es un petit peu paumé, hein. Trouver la fameuse phrase que papa trouve sa place. Oui, effectivement, au début, c'est difficile de trouver sa place, parce que les tout débuts de l'allaitement, c'est bébé qui dort, bébé qui mange, bébé à changer, un bain pour bébé, encore pas tous les jours. C'est vrai que c'est difficile. Moi, j'ai un petit peu tourné en rond, mais heureusement, avec ma femme, on n'hésite pas à se parler. Et puis, ben, moi, je me trouvais un petit peu niant, et j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Parce que là, clairement, j'ai l'impression de pas être utile et pas être utile après avoir fait le ménage dans la maison, préparé la bouffe, tout ça c'était déjà fait, tu vois. C'est des choses que j'avais fait déjà, tu vois. Et malgré tout ça, je me sentais inutile. J'avais l'impression que là, clairement, dans l'allaitement, je ne servais à rien. Et ma femme m'a dit, mais tu te rends compte que ce que tu fais là, c'est-à-dire de faire le ménage, t'occuper du linge, faire à manger, c'est déjà m'aider. Oui. Techniquement, c'est pas en rapport direct avec le bébé, mais c'est déjà m'aider. Et en plus, là, c'est vraiment une aide. Je parle bien d'aide parce que je suis pas quelqu'un qui aide ma femme. Moi, j'ai jamais aidé ma femme. Je fais ma part du boulot, mais je l'aide pas. Mais là, dans cette situation-là, je l'aide parce que quand on fait les choses à deux, c'est plus rapide. Mais quand on n'est plus tout seul à pouvoir le faire, là, c'est vraiment une aide. Tu apportes une aide à quelqu'un. Et là, je l'ai aidé. Je l'ai aidé parce que c'est pas envisageable d'allaiter et de faire d'autres choses à côté. Et donc pour revenir à ça, voilà, je disais non, j'ai pas l'impression de servir à grand chose. Et puis après, je me suis dit, et qu'est-ce que je peux faire auprès du bébé, où là réellement, autre que l'allaitement, je peux apporter quelque chose. Eh bien, j'ai fait le bain. On commence par le bain. Alors on a fait des bains classiques, après on a fait des bains emmaillotés. On a testé plein de sortes de bains, enfin des trucs super sympas, tu vois. On regardait sur internet tous les trucs qu'on pouvait trouver et qu'on pouvait faire sans se mettre en danger. Ma femme est sage-femme de base, donc voilà, elle connaît quand même le truc. Au pire, elle m'aidait, elle me rectifiait un petit peu dans mes gestes parce que j'étais un papa pas forcément sûr de moi au début. Et puis après, les massages, enfin, c'est génial. Quand tu masses ton bébé, tu vois limite qu'il s'endort, tu vois, comme si presque dans le même état physique et peut-être même émotionnel au moment, tu sais, où il lâche le sein et qu'il est complètement gavé de lait et d'ocytocine, comme ça, et de se dire, bah, attends, j'arrive presque à lui donner cette presque même sensation juste en le massant. Et puis, je trouve qu'il est important, peut-être aussi dès le départ, pour le développement moteur, intellectuel, tout ce que tu veux de l'enfant, qu'il y ait une différence. Voilà, il y a ma maman, elle fait comme ça, puis il y a mon papa, il fait comme ça. Et je pense qu'il c'est même pas, il n'y a pas de perte de repère pour le coup. C'est bien de se dire qu'il y a bien deux personnes distinctes qui font chacune quelque chose pour moi et qui est bon. Et je pense que du moment que l'enfant sait que ce que l'on fait chacun est bon, bon bah voilà, on est sur la bonne route. Hein.
Non mais complètement. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis sur les tâches ménagères parce que moi, pour être transparent, j'étais pas encore à ce moment-là très très équilibré, on va dire, sur la charge mentale et j'avais vraiment cette sensation d'aider, enfin voilà, de faire à la place d'eux et d'aider ma femme sur le ménage. Et maintenant, sur mon point de vue, a quand même bien évolué. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une charge globale qu'il faut faire. Et l'allaitement, ça reste ce qu'on pourrait appeler un travail gratuit des femmes, hein, quand même, et une charge qui vient s'additionner au reste. Donc l'idée, c'est pas spécialement d'aider en fait sa compagne, c'est plutôt de prendre une part différente dans la charge globale du foyer. Allaitement compris, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que c'est une étape, hein. C'est une étape à passer parce que quand t'es habitué en plus à être actif et que tu te retrouves comme ça à être à la maison avec bébé, avec maman.
Et même si avant le bébé, je faisais les tâches ménagères, tout ça, il y avait encore certaines choses que je ne faisais pas, que je ne me rendais pas compte de la fameuse charge mentale dont tu parlais, effectivement. Et c'est là que je m'en suis rendu compte une fois que le bébé était là. Ah ouais, il y a les prises de rendez-vous, tu vois, il y a tout ça, l'agenda, le truc. Moi, j'avais pas d'agenda avant d'avoir un enfant, je peux te le jurer. J'avais tout sur mon portable, un petit peu à l'arrache pour le boulot parce que j'avais un planning qui était froissé dans ma poche, mais je n'ai jamais eu d'agenda. Et tu vois, rien que ça, je me dis, ah ouais, mais non, mais c'est dingue ce qu'on a ce qu'ont les femmes sur la confiance à longueur de journée. C'est impressionnant. Enfin, moi, je peux comprendre que ça soit dur. En plus, je travaille avec des femmes. Hein. Tous les jours, ça fait des années que je travaille avec des femmes. Hein. J'ai fait avec des femmes. Et combien de fois j'entends, oh là là, j'ai de la chance, mon homme m'a aidé hier soir. Mais non, il t'a pas aidé, je te jure qu'il t'a pas aidé. Il a fait son taf. Hein. Je tiens la maison, vous la dégueulez à deux. Je suis désolé. Et le pire dans tout ça, tu vois, c'est que moi j'ai ce raisonnement-là. Et quand je vais chez mes parents, je vois ça. Je vois cette situation-là de « Oh, ton père, il m'aide, j'ai de la chance. » Non, non, maman, je te jure, t'as pas de la chance. Ah, t'es connu, il te voit pas, quand il fait de la cuisine, il a beau être excellent cuisinier, d'en foutre partout dans la cuisine, c'est pas t'aider, non. Et en plus, il nettoie pas, tu vois. Et tu vois, je me dis, c'est même pas une question d'éducation, tu vois, pour le coup. C'est vraiment une histoire de remise en question de soi-même.
Il faut déconstruire le modèle. Et moi, je trouve que ce genre d'expérience, ça permet justement de vivre la nécessité de le déconstruire et de trouver d'autres solutions, tu vois.
Et peut-être que l'allaitement, à la différence d'un autre moyen d'alimentation pour un bébé dès la naissance, peut, chez l'homme, finalement, l'amener à découvrir d'autres choses de la vie du quotidien, tu vois, que la vie ne se résume pas à juste l'alimentation du bébé, voilà. C'est pas parce que tu nourris pas ton enfant que t'es un mauvais père.
Alors, justement, tu parlais de ce que peut faire le papa. Donc tu parlais de donner le bain. Moi, je sais que ce que j'ai beaucoup aimé faire et ce que j'ai vite fait, c'était que dès que la petite était pas avec sa mère pour téter, c'était beaucoup de peau à peau, de sieste en peau à peau, beaucoup de portage en fait. Je passais l'aspirateur, portage. En plus, ça marche du feu de Dieu pour l'endormir. Enfin, oui. En tout cas pour ma fille. Et en plus, ça permettait aussi à sa mère d'avoir un moment. Calme, seule, parce qu'on n'y pense pas non plus. La mère, elle n'est pas là non plus pour être à 100% une c'est maman. Hein, elle a le droit de faire d'autres choses et sans culpabiliser.
C'est ça qu'on oublie souvent, c'est de se dire il y a maintenant papa, maman, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi un couple avant et il y aura toujours le couple tout le temps. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à s'oublier nous rapidement. On s'est dit attends, on a beau être dans le maternage proximal, il faut aussi savoir un moment prendre du temps pour nous. Et aussi, moi je laisse beaucoup de temps à ma femme, même actuellement, là on est à 20 mois d'allaitement, t'as vu, je dis on est, hein, t'as vu, et c'est régulier, je dis voilà, bah, je prends Rosalie, alors pas actuellement parce que c'est le confinement, mais on a nos petits rituels, tu vois, le dimanche matin, moi je l'emmène faire le marché à Rouen, et puis tout se passe bien, hein. Elle a pas besoin de téter à ce moment-là, parce que elle sait très bien que papa peut lui apporter le même soutien et même réconfort que maman, à la différence, c'est que moi j'ai pas de sein, mais je suis capable d'entendre ses besoins et d'y répondre. Et moi, jamais, ça ne m'est jamais arrivé, des fois je peux partir 2-3 heures, jamais ma fille m'a réclamé une tétée. Alors, des fois, quand t'as sent qu'on arrive près de la maison, j'entends un tété, tété, tu vois, mais pas plus que ça.
Oui, après, moi, ce que j'ai trouvé génial dans là-dedans, c'est aussi les différences de tétée, tu vois. Il y a la tétée nutritive, la tétée de retrouvailles, la tétée de réconfort, enfin, c'est rien qu'à observer, je trouve ça génial.
On sait pas trop au début, tu sais, t'es un petit peu perdu, alors nous surtout, pour moi par exemple, enfin même pour nous, je mets ma femme dans ça, nous on n'avait pas Instagram, parce que moi je suis principalement sur Instagram, on n'avait pas eu tout ça pour, parce qu'il y a quand même une source impressionnante d'informations hein, sur Instagram, hein, sur les comptes d'allaitement, hein, je parle par exemple, de Laurie Daniel, Camille Lolo Helpeuse, tout ça c'est des sources plutôt sûres hein, de connaissances et d'informations sur l'allaitement, et nous on n'avait pas tout ça, si tu veux. Au début on s'est lancé là-dedans avec le peu d'informations qu'on a trouvé sur internet, un petit peu de connaissances des gens de la famille, mais ça reste très très fluctuant hein, c'était pas très très clair, et puis c'est pas avec les connaissances personnelles de ma femme de l'école de sage-femme, parce que clairement sage-femme, c'est des années d'études, et je crois que on est sur seulement quelques heures de formation sur l'allaitement. Ce qui est d'une tristesse infinie d'ailleurs, parce que tu te dis, quand même, là, c'est pour ça que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que ma femme, elle s'est lancée dans une formation d'IBCLC pour être conseillère en lactation. Parce que nous, une conseillère en lactation, on en a eu besoin à un moment dans notre allaitement, et heureusement qu'elle était là, parce qu'elle a sauvé la chose. Et puis après, on s'est rendu compte que sur Instagram, il y avait énormément d'informations, de bonnes informations, de vraies informations, et de se dire que on pouvait être soutenu aussi. Et ça, c'est important, parce que des fois, c'est bien d'être soutenu par son conjoint, mais on a peut-être envie aussi parfois d'être soutenu par quelqu'un d'autre d'extérieur, qui n'a rien à voir avec la maison, qui peut peut-être même entendre ce que ton conjoint n'arriverait peut-être pas à entendre.
Et complètement, et aussi qui comprend mieux, parce qu'on a beau être des hommes engagés dans l'accompagnement, mine de rien, faut pas se mentir, on peut pas savoir non plus ce que ressent exactement une femme pendant l'allaitement, donc il faut prendre un peu de recul. Et ça me rappelle vraiment ce que tu dis, les temps le début de l'allaitement, parce que nous on n'a pas eu un début d'allaitement simple plutôt, comme beaucoup de gens. Je me revois encore à la maternité, pourtant une maternité amie des bébés, où on disait à ma femme non mais là vous avez pas assez de lait, ça va pas, et il a fallu qu'on trouve la personne. La personne qui te dit, non, mais si ça va bien se passer, on va faire du DAL. Donc, le DAL, c'est un système d'accompagnement à la tétée pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent. Et qui nous a vraiment encouragés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti de la maternité et on est arrivé chez nous avec notre environnement serein et poum, c'est parti, quoi. Et il y a vraiment ce côté-là où je pense qu'il y a un savoir qui s'est perdu. J'en parlerai dans la partie 1. Mais il y a vraiment ce côté-là d'accompagnement. L'autre côté que je voulais te demander, parce que t'es quand même un homme, ouais. Tu vois, et puis moi là je te vois en direct, pour ceux qui t'ont pas encore vu, je les invite à aller voir ton compte via Machin Bidule. Voilà, Fred, c'est vraiment l'homme, on voit qu'il est cisgenre, hein, il correspond à l'image qu'on peut se faire d'un homme. Hein. Voilà. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'homme dans ta perception de la masculinité, de la virilité, du rôle de l'homme? Est-ce que ça a changé quelque chose déjà? Et si oui, quoi?
Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, il y a deux choses qui ont changé, parce que c'est arrivé au même moment. J'ai changé de service, quasiment en même temps que je suis devenu papa. Et jusqu'alors, je travaillais dans un service de médecine générale classique. Et je suis arrivé en soins palliatifs. Et alors, il y a cette particularité où je me dis toujours, ma femme aide les enfants, hein, aide à l'arrivée à la vie, et moi j'accompagne les gens à partir. Et il y a cette sensibilité que je n'avais pas avant. Pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, j'ai été sapeur-pompier pendant plusieurs années, un peu brut de décoffrage, j'ai joué au rugby, voilà, hein, j'ai pas été le. J'étais plus déménageur que que danseur classique, tu vois le truc. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors c'est difficile à croire aujourd'hui de se dire que voilà, derrière cette Mars, il y a un petit cœur qui bat et qui a une vraie sensibilité et que ça change rien même masculinité. Je prends mon rôle de papa pas comme une maman. Je prends mon rôle de papa parce que je suis un papa. J'apporte autre chose à ma fille. Alors pas qu'une maman peut pas donner, hein, mais c'est différent, c'est pas la même chose. Mais je pense sincèrement que l'allaitement m'a apporté beaucoup de savoir écouter les autres un peu plus, tu vois le truc, parce que alors quand je dis les autres, principalement ma fille, parce que ma fille a des besoins comme tous les enfants, et c'est difficile, on le sait très bien, hein, dans les premiers mois de comprendre les besoins de son enfant. Alors bien sûr, à la différence de beaucoup de parents, nous on a mis en place pas mal de choses qui nous aident concrètement, et c'est, franchement c'est génial. La langue des signes, voilà, déjà ça c'est la base, hein. Je serais menteur de dire que ça nous a pas aidé.
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
La langue des signes, ça nous a aidé pour tout. Hein. Franchement, j'ai peur, j'ai faim, j'ai soif, je suis triste, je suis content. La tétée, j'ai rien que le signe tétée, de savoir qu'elle a faim, tu vois. Elle n'a pas besoin de pleurer, on cherche pas qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Hop, elle nous signe qu'elle veut tétée. Alors bien sûr, ça demande, alors, je ne veux pas dire du travail, mais ça demande un temps de réflexion, et puis même pour elle d'assimiler le geste à ce qui va arriver après. Mais une fois que c'est mis en place, oh, c'est magique. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le portage, la LSF, juste d'apprendre à écouter les autres, et là, principalement, son enfant. Et ça c'est quelque chose que je ne savais pas avant, en tout cas très peu, et j'en suis ravi, et je ne regrette pas du tout. Alors, je ne regrette pas ma vie, évidemment, mais je suis surtout content d'avoir évolué dans ce sens-là. Voilà. Et le discours que je tiens aujourd'hui, même en général sur la féminité, je ne l'aurais pas eu il y a 15 ans. Parce que, et pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, moi j'ai été élevé alors bon, dans une famille classique, ça y a pas de souci, mais j'ai fait partie d'un corps où l'image de la femme, bon, on peut pas dire non plus, et même encore aujourd'hui, hein, j'en parlais encore il y a quelques jours avec une copine qui était pompier justement, et qui a arrêté pour ça parce que c'est difficile, hein. L'image patriarcale ne s'arrête pas que là, il y a l'image de l'homme, hein, là, le mec il est au-dessus de tout le monde. Il est toujours plus fort qu'eux, et puis en fait non, enfin non, faut juste arrêter. C'est très très difficile, tu vois. Et bon, et peut-être que les hommes deviendraient plus hommes s'ils pouvaient comprendre ça. Juste le principe. Ton dernier podcast, il est génial pour ça, parce que tu parles de est-ce que je peux te faire un bisou, tu vois, par exemple, tu vois, le principe de moi aussi, hein, j'ai peur, hein, j'ai une fille, hein, je me dis putain, si un jour elle tombe sur un mec complètement cinglé, hein, parce que ça paraît logique de forcer à faire un bisou. Voilà, et on sème des graines, hein. On sème des petites graines tous les jours. Moi j'ai l'impression de semer des graines, tu vois, de parler avec toi là, je sème des graines, parce que des gens vont nous écouter. Je sème des graines sur Instagram quand je mets un post où je parle d'allaitement, où je parle des sentiments, où je sème des graines. Peut-être que je vais peut-être arriver à avoir une fleur ou deux qui va peut-être pousser, mais je m'en fous, tu vois. C'est, je me dis juste que à un moment il y a peut-être quelqu'un qui va se dire, ah ouais, c'est vrai qu'il a peut-être raison, et qu'on pourrait revoir les choses différemment. Mais pour moi, l'homme devient homme quand il peut déjà comprendre qu'on met tout le monde au même niveau. Moi, souvent, quand je dis que ma femme, ma fille et moi, nous sommes à égalité dans la maison, il y en a qui ont du mal à comprendre. Pourquoi il est à l'égalité? Attends, le mec, c'est quand même chef de famille, tu vois. Tu as l'image du chef de famille, hein. On dit toujours le chef de famille, hein. T'as jamais entendu la chef de famille, toi. Bon, bah, c'est exactement ça, tu vois. Et vraiment, l'allaitement ne m'a pas plus féminisé ou quoi, il m'a juste fait prendre conscience que si j'apprends à écouter les autres et à mettre tout le monde au même niveau et pas me prendre plus malin que les autres, et ben voilà, ça y est, voilà, je suis le tip top des hommes, peut-être, hein, mais en tout cas, moi je me sens mieux comme ça et je le vis très bien.
Et oui, et c'est en effet, je te rejoins, c'est dans l'idée de l'évolution. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet d'évolution. Moi aussi, hein, il y a ne serait-ce que 3-4 ans, je tenais pas du tout les mêmes propos, c'est une prise de conscience qu'il faut. Et je reviens sur un truc par rapport au rôle du père et de l'accompagnement à l'allaitement. Ouais. Il y a beaucoup de gens dans la défense du biberon, on va dire, entre guillemets, qui disent « Ouais, mais vous comprenez, l'allaitement, ça exclut le père. » Parce qu'il peut pas nourrir l'enfant, qu'il peut pas donner le biberon, que la mère doit se lever la nuit, que pour le coup ça, c'est sexiste parce que c'est la mère qui doit se lever la nuit. Qu'est-ce que t'en penses de ces arguments-là, toi ?
Alors déjà, on va déjà commencer par le sujet de la nuit. Alors les premières semaines, les premiers mois, l'homme a tout son rôle, hein, même si c'est un cododo. Hein. Alors après, chacun fait comme lui s'il veut faire dormir son enfant dans sa chambre ou en cododo. Mais qu'importe le mode que vous avez choisi pour que votre enfant dorme, l'homme a son rôle à jouer. La nuit, un enfant, surtout les premières semaines, a besoin d'être changé. Donc déjà, rien que ça. Et puis après, il y a d'autres choses. Il y a le petit rototo, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de roter. Il y a toujours, tu vois, le petit besoin pour ta femme, tu vois, le petit verre d'eau. Et puis peut-être l'aider à s'installer. Et puis parfois, même si tu ne fais rien, juste d'être éveillé. Alors c'est difficile par moment, tu vois. Il faut deux allumettes sur chaque œil, mais rien que d'être éveillé et de faire voir que tu es présent, de tenir la main, je ne sais pas, qu'importe, c'est déjà une aide. J'essaye de me mettre à la place de ma femme. Je me dis, si en plus d'une tétée régulière, nocturne, tu dois supporter les ronronnements du mâle juste à côté, ça fait peut-être beaucoup. La première nuit, c'est mignon, toi. La deuxième, ça commence à être chiant. La troisième, elle t'invite à aller prendre un bain, à mettre de la javel dedans et à boire la tasse, toi. Donc, je pense que voilà. Non, la nuit, le conjoint a un rôle. Avec les mois qui avancent, là actuellement, moi, c'est vrai que la nuit, je fais presque plus grand chose. Il y a des nuits où ma fille souhaite dormir dans sa chambre. Donc, si elle a besoin et qu'elle se réveille, je vais la chercher. Et je l'amène à ma femme. Mais si elle est en cododo et qu'elle est à côté de ma femme, elle lui donne le sein. Et en général, je me réveille parce que moi j'ai le sommeil plutôt léger, mais je ne fais rien de plus. Mais au tout début, le rôle est quand même très important. Et puis alors après, effectivement, on donne pas le biberon, mais on peut faire extrêmement plein de choses. Hein, surtout quand le bébé va pouvoir commencer dans la diversification alimentaire. C'est peut-être le moment de se dire, si je suis pas chef cuistot, on se lance un petit peu, tu vois, on achète la cuisine pour les nuls, et puis on s'y met, hein, faire une purée, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, et puis on commence, tu vois, comme ça, et puis là, vous avez votre rôle, c'est vous qui cuisinez, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Moi, j'ai commencé à faire des petits pots, tu vois, alors au début, je faisais des trucs très simples, après des trucs un petit peu plus sophistiqués, puis après, on a commencé la diversification menée par l'enfant, alors là, j'ai commencé à choisir, tu vois, les bons fruits, les bons légumes, les trucs, la bonne taille, le machin, et ma femme m'a laissé faire, et alors, je lui ai demandé conseil, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Mais elle m'a laissé faire, et donc de me laisser faire, ça m'a complètement ouvert. Je me suis dit, je suis dans le rôle concret, je fais quelque chose. Mais déjà, si on a peur vraiment de ne pas se sentir utile, quand on met son enfant sur un tapis d'éveil, et qu'il est en train de regarder à droite, à gauche, de babiller, de faire tout ce que tu veux, et que tu le regardes, tu fais déjà quelque chose. C'est vrai que techniquement, concrètement, t'as pas l'impression de faire grand-chose. Mais d'être là, d'être présent pour son enfant, c'est déjà quelque chose. C'est pas rien. Il y a des enfants qu'on laisse faire, qu'on met dans un coin, qu'on met dans un parc, qu'on met c'est la réalité, elle est là. Mais si déjà de l'accompagner, voilà, de porter, moi je portais pas beaucoup au début. C'est après qu'on a découvert le portage. Oh, si c'était à refaire. Enfin là, je veux dire, s'il y a un deuxième bébé, le portage, je revends la poussette. D'ailleurs, la poussette, elle nous a servi peut-être 4 fois, tu vois. Donc la poussette, ça sert à rien, en train de prendre la poussière.
La mienne est rangée derrière moi, là, dans le débarras. Donc, si tu veux, je comprends bien. Oui, en effet, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire.
Il y a vraiment plein de choses à faire.
Et quel autre changement ça a pu déclencher chez toi? Moi, je vais te donner un exemple très, très précis. Alors, un peu intime, mais très précis. C'est que moi, si tu veux, j'avais une vision des seins de la femme qui était uniquement sexualisée. Avec tout le fantasme et les idées qu'on peut avoir derrière dues à la culture qui nous entoure, hein, où on voit des poitrines partout, même pour te vendre un pneu, on va te mettre des seins à côté.
Ah ben, totalement.
Et est-ce que toi, ça t'a changé cette vision? Parce que moi, concrètement, ça l'a vraiment fait évoluer. Pour être totalement transparent, j'arrive à apprécier une forme féminine comme ça, mais par contre, je n'ai aucun fantasme derrière. Si tu veux, c'est juste, j'apprécie une vision et ça s'arrête là. Alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus intense, tu vois. C'était vraiment cette vision qu'on peut avoir où la poitrine de la femme est hyper sexualisée en permanence. Et ça me l'a complètement cassé. Hein.
Alors c'est vrai, ce que tu dis, hein, voilà, on utilise les seins pour tout, hein, même pour vendre du beurre. Alors c'est vrai que, et à contrario, on n'utiliserait jamais une paire de couilles, mais ça après, ça c'est juste mon avis, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est peut-être moins beau, bon, à la rigueur. Mais effectivement, cette sexualisation des seins fait aussi souvent que les papas ont du mal avec l'allaitement. Parce qu'ils se disent, ah, les gens vont voir le sein de ma femme. Alors voir, c'est un bien grand mot, hein, parce que, en règle générale, il n'y a pas un grand déballage, regarde-moi ça, qu'est-ce qu'il y a là. Non, non. Peut-être même le fait de juste voir un bout de téton qui dépasse, enfin, vraiment, à un moment, enfin, je veux dire, c'est pas catastrophique. Regarde un homme torse nu dans la rue, ça t'inquiète pas si tu vois son téton. Bon, voilà. Je veux dire, d'ailleurs, rien que ça déjà, je trouve ça déjà, c'est déjà choquant. Moi, il peut faire 40 degrés, je peux durer, je me mets jamais torse nu. Parce que, juste par principe, c'est juste de se dire, voilà. Mais c'est une image. Qui est comme ça depuis des années et puis qu'on nous a appris, qu'on voit tous les jours, c'est classique, on voit jamais un cul d'homme, hein, pour vendre un jean, hein, c'est toujours un cul de femme, tu vois, et ça me fatigue réellement. Et avant l'allaitement, oui, je veux pas dire le contraire, c'est vrai que l'image des seins était plus une image sexuelle que de donner un aliment, si tu veux, voilà, de donner quelque chose, alors qu'à la base, vraiment, hein, si on remonte au tout début, hein, Adam et Ève, ça sert à ça quand même. Ça a été créé pour ça. Hein, c'est pas là pour autre chose. Hein. C'est après que ça s'est cassé la gueule. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non, j'ai plus du tout cette image de sexualisation du sein. Moi, je m'en fous totalement. On rencontre beaucoup d'amis sur Instagram. Maintenant, ils sont même venus des amis qui, elles aussi, sont en allaitement. Mais elles savent très bien et qu'elles sont en toute confiance, entre guillemets, de se dire, de toute façon, Fred, voilà, lui, il s'en fout comme de sa dernière d'anglais. Et effectivement, elle devrait se dire que, enfin, tout le monde devrait se dire que les hommes, finalement, s'en fichent. Il y a une chose sur laquelle, je dis, tu vois, hier j'ai fait un live sur un papa allaitant, et hier je disais quelque chose qui, pour moi, est la base de tout, et pas que sur l'allaitement. La femme est la propriétaire de son corps. L'homme est le propriétaire de son corps. Et donc, si une femme a décidé de sortir son sein dans la rue pour donner le sein à son enfant, parce qu'elle veut répondre à un besoin, ça ne devrait choquer personne. On ne devrait même pas se poser la question. On ne devrait même pas avoir une réaction en disant « Oh, c'est trop mignon !» Non, il n'y a rien de mignon. C'est naturel. C'est naturel. T'as le nez plein, tu te mouches. C'est naturel. On est d'accord, tu vois. T'as mal à la tête, tu prends ta doliprane. Tu vois, il y a des choses comme ça. Tu vois, c'est naturel. Voilà, point. Et ben là, c'est exactement la même chose. On ne devrait même pas se justifier, en fait, tu vois. Moi, c'est vrai que je fais pas le je suis pas un extrémiste de nichon, hein. Je fais pas le bien et le mal sur mon Instagram en disant les biberonnants c'est pas bien. J'informe juste. Je dis juste que voilà, nous sommes dans une société où on évolue et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Alors rapidement, ça je suis pas sûr, mais si chacun y met du sien, on va y arriver. Mais juste déjà, chacun s'occuper de son cul, vraiment, on avancerait encore beaucoup plus vite, vraiment. Qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un? Qu'une maman allaite, alors, allaite un an. Alors, c'est marrant, je vais te donner un exemple, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on était parti dans un magasin de sport. On arrive au rayon cabine d'essayage, et la vendeuse voit ma fille, elle fait oh, elle est vraiment magnifique, votre petite fille. Oh, elle est vraiment magnifique. Et là, ma fille regarde ma femme et il fait tété. Alors, ma femme s'installe sur un banc, la dame lui dit mais allez-y, installez-vous, madame, je vous en prie, donnez le sein à votre fille, il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, tout se passait bien, tu vois. Et là, elle fait, et elle a quel âge? Et là, tu balances, 18 mois. Ah oui, d'accord, ok. Bon, si vous avez besoin de moi, je suis à côté. Tu sens le malaise? Oui, il y a un malaise. Qu'est-ce qu'elle est? Enfin, elle est vendeuse, elle est pas médecin, elle travaille pas pour l'OMS, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, tu vois, et même quelqu'un qui bosse pour l'OMS, je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre à un moment qu'une femme donne le sein, même à un bambin. Je sais qu'après, tu vas faire une interview avec Mathilde, qui pour moi est un très bel exemple d'allaitement qui dure sur la longueur et qui apporte quelque chose de concret et de réel sur un allaitement long. Mais c'est son choix. Enfin, je veux dire, c'est le choix de chaque femme et de chaque couple. Tant qu'on est en adéquation avec ça, je vois pas où est le problème. Et tant qu'on est soutenu, moi souvent on me demande eh, combien de temps ta femme a compté allaiter. Bah, le temps qu'elle voudra en fait. Le temps qu'on voudra, tant qu'on aura décidé. Et je vais te dire que même si c'est moi qui un jour je lui dis Julie, j'ai envie que t'arrêtes, tu sais, je pense que Julie elle va me dire bah écoute, moi mon gars, j'ai pas envie d'arrêter, donc je vais continuer. Et puis tu vas pas me casser les roupettes. Et ben ça sera exactement ça. Et elle aura raison. Parce que c'est pas l'homme qui décide de ce que va faire la femme, et pas que pour l'allaitement. Hein, pour s'habiller, pour machin, ce truc, enfin, ça c'est bon, ça c'est fini, ça faut arrêter. Hein. C'était logiquement, ça devrait être il y a plusieurs années, mais malheureusement, on en est encore. Tu vois.
Oui, en effet, c'est encore des situations qu'on peut rencontrer, et je te rejoins complètement sur l'allaitement. Moi, j'ai beaucoup en mémoire, donc moi, ma fille est encore allaitée aussi, hein, elle a 21 mois, et j'ai vraiment encore beaucoup en mémoire les remarques, que ce soit au travail ou en famille, avec des amis, en effet, à partir de. Généralement, les 6 premiers mois, on ne dit rien.
C'est beau, les 6
premiers mois. On ne dit rien. Passé 6 mois, il n'y a pas trop de jugement. Par contre, il y a des vraies interrogations. Attends, mais ta femme, elle a encore du lait? C'est possible d'avoir encore du lait? Ah oui, en fait, c'est possible. Donc, tu tires, il y a du lait. Et puis après, en effet, ça commence à se compliquer un peu. Passé 12 mois, donc quand on est dans le bambin, c'est vrai que ça commence à se compliquer un peu. Et puis, à un moment, ben, faut juste s'en foutre, je pense. Faut passer à autre chose. Et puis, si les gens sont gênés, moi, je pars du principe, si les gens sont gênés, c'est que les gens ne savent pas. Non. Et que s'ils veulent apprendre, avec grand plaisir, on discute. Et puis sinon, bah, écoute, si t'es gêné, tu détournes le regard et tu m'embêtes pas, quoi.
L'information rend l'ignorance. Le manque d'information rend ignorant. Et ça, c'est pas que pour l'allaitement. J'aime bien donner cet exemple de se dire, chacun a une religion ou pas, mais de connaître chacune des religions, un minimum, la base, hein, pas dans le détail, permet peut-être parfois d'être plus tolérant. Et bien pour l'allaitement, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on essaye de s'informer un minimum, je te demande pas d'être convaincu, je te demande juste de t'informer. Voilà, il y a des faits. Les faits, c'est ça. Voilà, l'allaitement, c'est ça. Le biberon, c'est ça. Ce qui est dans le lait, les préparations commerciales pour nourrissons, voilà ce qu'il y a dedans. T'en fais ce que t'en veux, mais t'as été informé. Mais les gens ont peur. Alors déjà, les gens ont du mal à s'informer. C'est quand même compliqué quand même à l'époque où on est. Hein, on a Internet illimité, on a 50 000 supports. Il y a 40 ans, ça aurait été un autre problème. Mais là, on n'est quand même pas à ce niveau-là quand même, tu vois. Mais il manque toujours cet effort de se renseigner pour quelque chose. Il y a ma fille qui vient d'arriver, c'est bon. je suis là. Mais voilà, c'est difficile. C'est difficile ce. De convaincre les gens parfois. Des fois, tu sens que tu es devant une porte de prison, tu vois. Les gens, tu peux leur raconter ce que tu veux, ils n'ont strictement rien à faire. Et ça, c'est dommage. Juste d'être ouvert d'esprit. Tu vois, par exemple, moi, l'instruction en famille, tout de suite, ça ne me dit pas grand-chose et c'est pas quelque chose où j'ai envie de me lancer dedans. Par contre, je regarde des comptes qui le font chez eux et qui évoluent avec ça et j'aime bien m'informer. Tu vois, il y a l'exemple, c'est. Une jeune maman extraterrestre, voilà, elle a un compte où elle fait l'instruction en famille, et ça, je trouve ça génial, tu vois. Je me dis, ouais, c'est cool, et je me suis informé. Je te dis pas que je le ferai, peut-être, peut-être pas, mais je me suis informé. Et j'en ai toutes les infos, et je me dis, et ben voilà, c'est bon, là, voilà, je peux continuer.
Alors, c'est un autre sujet, mais en effet, c'est très bien cette démarche de vouloir s'informer. Ça permet justement de comprendre. Je le dis souvent, faut pas se tromper de con. Faut essayer de comprendre au lieu d'essayer de convaincre. Et ça change beaucoup la vie quand on pense un peu comme ça. On va arriver à la fin de cette interview. Et j'ai envie de te demander ce que t'as envie de dire comme mot de la fin pour les parents ou parents devenir qui pensent à l'allaitement et qui se demandent comment ça peut se passer. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Eh ben écoute, je vais leur dire ce que j'aurais aimé entendre. Écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout délestez-vous le maximum de gens nocifs. Parce que vous allez en rencontrer, vous allez inévitablement faire face à ces gens-là. Et des fois, malheureusement, ce sont des gens parfois proches. mais je pense qu'il est bon pour soi-même, pour son couple, pour son enfant, de prendre du recul sur ce genre de personnes, et aussi de faire à sa sauce, hein, de se dire que moi je suis un parent, peut-être que je ferai une erreur, mais l'erreur je la ferai moi-même et j'apprendrai de cette erreur-là. Mais vraiment, faites-vous confiance, c'est le premier mot, informez-vous, n'ayez pas peur de poser des questions, il y a plein de comptes qui vous répondront, même s'ils ont des milliers d'abonnés, vous allez voir, ils prennent le temps de vous répondre, et ils sont extraordinaires. Mais vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous, et surtout, évitez de vous poser la question, qu'est-ce que pensent les autres ? Vraiment.
Et oui, c'est chouette, c'est très très chouette, je pense que tu as tout à fait raison. Mais en tout cas, je peux te dire qu'on parle de papa laitant et de maman laitant. Moi, mon point de vue, c'est qu'il tarde qu'on parle de parents laitants, qu'on arrête de séparer, qu'on réfléchisse ça. Vraiment ensemble. Et quand on aura compris ça, j'espère qu'on aura fait une bonne partie du chemin.
C'est pour ça que souvent, je dis pas ni maternage ni papaternage, je dis du parentage.
Exactement, voilà. Et je te rejoins totalement sur cette expression.
C'est un tout, hein. Il n'y a pas que l'enfant ne s'arrête pas qu'à une maman. Voilà. Pendant des années, ça a été comme ça. Et je pense qu'à un moment, il est temps aussi que tu vois, je vais dire un gros mot. Hein. Il est temps de poser les couilles sur la table et pour les bonnes causes, tu vois. Et moi, je pense que j'ai su les poser à un bon moment et je suis content et je continuerai à les poser et ça me dérangerait pas du tout, tu vois. Je militerai tant que ma fille sera allaitée, si j'ai un autre enfant qui soit allaité, et même quand ça va se terminer, je continuerai parce que je pense que c'est vraiment important, voilà, et pas que pour l'allaitement, pour plein d'autres choses, mais pour l'allaitement principalement. Ouais.
Ok, super. Je te remercie beaucoup, Fred.
Eh ben de rien, c'était avec plaisir.
À très bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.